merci pour la petite présentation que vous avez faite. Vous avez oublié de rappeler un épisode important de mon parcours. Le premier, c'est celui qui m'a conduit à quand même passer une année au sein de l'institution militaire, parce que j'ai eu la chance de faire mon service national en tant qu'appelé du contingent en 2000. Alors, l'avant-dernière classe, et je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi cette année passée sous les drapeaux a été très marquante pour moi au sens positif du terme, pas uniquement parce que j'ai eu la chance d'y rencontrer Catherine Delis. Je suis assez, d'abord très touché et très impressionné de devoir m'exprimer devant vous ce matin sur un thème aussi large et vaste que le commandement. D'abord pour une raison assez, pragmatique, je pense que dans cette salle, je suis le seul à ne pas avoir été formé au commandement. J'ai pas refus de formation au commandement, contrairement à vous tous. Vous avez cette chance-là, dans votre cursus, ici à l'école navale, d'être formé, d'être préparé à commander des hommes et des femmes dans des situations plus ou moins complexes. Dans la haute fonction publique civile, nous n'avons pas, malheureusement, de formation au commandement. La formation, enfin, l'aptitude au commandement, on l'acquiert de manière très pragmatique, très prétorienne, par le gré des affectations successives, mais on n'y est pas formé. Donc ce que je vais partager avec vous ce matin, ce n'est pas le fruit d'un cursus ou d'un enseignement théorique, c'est le fruit de mon expérience professionnelle. Les différents postes que j'ai occupés viennent d'être rappelés, donc je ne vais pas y revenir. Deuxième chose que je voudrais dire pour commencer ce propos, et puis après j'espère qu'on aura le temps d'échanger pour répondre à vos questions, c'est que je suis parfaitement conscient des différences profondes qui existent entre le commandement en milieu militaire, qui est votre vocation à tous, et le commandement tel qu'il peut s'exercer en milieu civil, ce que moi je connais. Il y a des différences culturelles, il y a des différences organisationnelles qui font que, alors je ne dirais pas que l'un est plus facile que l'autre, mais il y a une évidence, une culture du commandement dans l'institution militaire qui est plus naturelle que dans l'institution civile, où le principe hiérarchique est présent, bien sûr, heureusement, sinon ce serait très compliqué, mais il s'exerce de manière moins naturelle et évidente, je pense, qu'au sein de l'institution militaire. J'ai la chance d'occuper aujourd'hui des fonctions de directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises qui me conduisent à être, de fait, en situation de commandement, à la tête d'une institution dont je vais vous dire quelques mots, parce que je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous la situez bien dans le paysage administratif français. La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises est chargée, sous l'autorité donc, du ministre de l'Intérieur, de la conduite de la politique publique de sécurité civile. Alors, je ne sais pas si vous faisiez un sondage d'ailleurs dans la salle, si la notion de sécurité civile est très bien connue, très bien identifiée. La sécurité civile, c'est une politique publique qui se rattache à l'ensemble, à la sphère beaucoup plus vaste des politiques de sécurité, donc on est vraiment dans le régalien. Elle se distingue d'une part de la sécurité intérieure, qui est le propre des forces de police et de gendarmerie, pour simplifier. Comme ça, moi, je ne m'occupe pas de sécurité intérieure. Et elle se distingue de la sécurité telle que déclinée par les armées. D'où son nom de sécurité civile. On verra dans quelques instants, néanmoins, qu'il y a des parentés assez fortes avec l'institution et la sphère militaire. Donc la sécurité civile, c'est cette politique publique qui mobilise un nombre d'acteurs, une grande variété d'acteurs déjà. Elle est portée par des acteurs très, très divers. Les acteurs de la sécurité civile, je vais les mentionner très rapidement pour que ça vous permettra ensuite de voir un petit peu l'émission. Ce sont les sapeurs-pompiers, 250 000 en France, 200 000 sont des volontaires, un peu moins de 45 000 sont des professionnels, des fonctionnaires territoriaux, donc pas des fonctionnaires de l'État. Et puis vous avez par ailleurs une douzaine de milliers de sapeurs-pompiers de statut militaire. Et parmi eux, une unité que vous connaissez peut-être, qui est rattachée organiquement à l'état-major de la marine, qui est le bataillon des marins-pompiers de Marseille. La plus grosse unité de la marine, en effectif. Hein, ils sont à peu près 2500. Et vous avez, sur la plate parisienne, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui elle, est une brigade de l'armée de terre, avec un peu moins de 10 000 sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers, donc, qui prennent en charge les missions de secours à personne, très majoritairement, 85% de l'activité des pompiers, c'est du secours à personne, mais qui peuvent être mobilisés aussi pour répondre à des crises d'autres natures, notamment les crises d'origine naturelle. L'incendie, premier lieu, la lutte contre l'incendie, c'est la mission des sapeurs-pompiers, elle existe, évidemment, mais elles représentent une part très marginale de leur activité. C'est 5 à 6% de leur activité totale, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis les sapeurs-pompiers, on les mobilise aussi pour des missions de réponse à des crises d'origine technique, d'origine technologique, des missions de reconstruction également. Donc ça, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont numériquement les premiers bataillons de la sécurité civile. Ils sont de plus en plus souvent relayés dans leur mission, notamment dans leur mission du quotidien, par d'autres acteurs de la sécurité civile que vous connaissez peut-être, qui sont les bénévoles, les associations agréées de sécurité civile, la Croix-Rouge française, la Fédération nationale de la protection civile, pour citer les deux principales. Et ces bénévoles des associations agréées, qui sont pour beaucoup d'entre eux des secouristes, hein, interviennent de plus en plus fréquemment en complément de l'action des sapeurs-pompiers. Et puis à côté des sapeurs-pompiers, vous avez ce qu'on appelle les moyens nationaux de la sécurité civile, qui sont eux, pour le coup, placés sous mon autorité directe. Il s'agit de trois formations bien identifiées, les formations militaires de la sécurité civile, FORMISC, dans notre jargon. Ce sont 4 régiments de l'armée de terre qui sont placés pour emploi sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et rattachés à la direction générale. Ça représente aujourd'hui à peu près 1600 sapeurs-sauveteurs, comme on les appelle, et ils seront à terme 2000, puisque on a la 4e unité qui a été créée l'an dernier, qui est en cours de montée en puissance. Donc à terme, ils seront 2000 sapeurs-sauveteurs, pleinement militaires, des militaires de l'arme du génie, mais qui sont pour emploi placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la première branche des moyens nationaux. La deuxième, ce sont les moyens aériens. J'ai la chance, l'honneur et l'avantage, mais aussi la contrainte de gérer une flotte d'avions et une flotte d'hélicoptères. Les hélicoptères, vous les voyez peut-être parce qu'il y en a un qui n'est pas très loin, c'est les dragons de la sécurité civile, hein, qui font principalement des missions de secours à personne, notamment en milieu maritime, mais aussi en milieu de montagne. Et les avions, donc, ce sont les avions qu'on utilise principalement dans les cadres de la lutte contre les feux de forêt. Les Canadair, évidemment, et puis nous avons des avions, ce qu'on appelle les multi-rôles, qui peuvent être employés pour la lutte contre les feux de forêt, qui peuvent également faire du transport de personnel ou de matériel. Et puis la troisième branche des moyens nationaux, c'est le déminage, qui est rattaché donc à la direction générale et qu'on emploie sur 2 missions principales, à la fois pour traiter les munitions héritées des 2 conflits mondiaux et qui restent très nombreuses sur notre territoire, et principalement dans le quart nord-est, mais enfin aussi un peu ailleurs. Et puis les démineurs, on les mobilise également et de plus en plus pour procéder à des levées de doute, voire à des destructions d'engins explosifs ou de colis suspects. Voilà, tout ça constitue la grande famille de la sécurité civile, qui est donc mobilisée pour gérer, et j'insiste là-dessus, à la fois le secours du quotidien, l'accident du coin de la rue, la personne qui se fait renverser par une voiture en traversant la rue, les personnes qui font des malaises ou les accidents de montagne, etc. Et puis la sécurité civile est également en mesure, et de plus en plus, de répondre à des crises exceptionnelles. Je ne vais pas vous multiplier les exemples. Le plus récent en date et qui a été assez marquant, c'est par exemple le passage du cyclone Chido à Mayotte. Voilà, un cyclone qui va littéralement ravager et dévaster un territoire près de entre 350 000 et 400 000 personnes, c'est pas très bien d'ailleurs, et on se tourne vers la sécurité civile pour procéder aux opérations de secours, de sauvetage et préparer la reconstruction. Vous voyez que même si donc la sécurité civile est à la fois une politique publique et puis une institution civile, comme son nom l'indique, une fois encore, il y a des parentés quand même assez fortes avec l'institution militaire. Amiral, vous employez tout à l'heure le terme de cousin germain, que je trouve très approprié, puisqu'il y a au sein de la sécurité civile des unités militaires, les Formis, les deux services d'incendie de secours de tête militaire, et puis il y a au-delà de ça une culture, une parenté intellectuelle qui me semble assez évidente et que moi je constate en tout cas au quotidien. Une fois ce rappel étant posé, je vais partager avec vous quelques réflexions sur la notion de commandement et en particulier de commandement dans la crise. La direction générale s'appelle Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et les deux termes ont leur importance. Sécurité civile, je vais nous expliquer ce que c'était. La gestion de crise, je crois que vous voyez à peu près ce que ça peut être. Juste préciser à ce stade de mon propos que la responsabilité de la direction générale en matière de gestion de crise va au-delà de la gestion des crises de sécurité civile. C'est-à-dire que dans les missions de la direction générale, il y a aussi le fait d'être en mesure de proposer à nos autorités politiques, au président de la République, au gouvernement, des outils leur permettant de gérer dans de bonnes conditions des crises d'ampleur importante. Ça se matérialise notamment à travers le dispositif de la cellule interministérielle de crise dont vous avez peut-être entendu parler. Vous avez forcément déjà vu des images de ces réunions de crise qui ont lieu dans la salle avec une grande table ovale qui est installée dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur et où à chaque fois qu'une crise majeure à dominante civile, hein, j'insiste là-dessus, parce que les crises militaires échappent complètement à la compétence du ministère de l'Intérieur, mais dès qu'une crise civile importante survient, le gouvernement décide l'activation de la cellule interministérielle de crise et on se retrouve dans cette salle un peu désormais un peu mythique, hein, des sous-sols de la place Bobo, autour de cette grande table pour conduire la crise et prendre les décisions et rendre les arbitrages. Et cet équipement, cette installation, cette structure est hébergée par la direction générale. Et donc, moi j'ai la responsabilité de faire en sorte que tout ça soit opérationnel à la disposition du président de la République ou du gouvernement. Avec un préavis parfois très bref, hein, quand je dis très bref, c'est que l'armement de la CIC, ça peut se décider en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'on reçoit le coup de fil de l'Élysée, un quart d'heure après, il faut que le président de la République puisse arriver, que tout soit prêt, que les équipements soient branchés, toutes les connexions établies, pour que le président de la République puisse présider dans de bonnes conditions, notamment des conditions suffisamment sécurisées, une réunion de crise dans la salle. Et ça, quelle que soit la nature de la crise. Je mets de côté les crises militaires, une fois encore, elles sont traitées par le MINARM, mais dès que la crise est civile, que ce soit une crise sécurité civile, une crise sécurité intérieure ou autre, ça se passe à la CIC, et donc c'est ma direction générale qui a la responsabilité de faire fonctionner tout ça. Crise sécurité civile, ben on voit ce que c'est, hein, c'est les événements climatiques extrêmes, les cyclones outre-mer, les inondations qui peuvent arriver malheureusement de plus en plus fréquemment, mais ça peut être des crises tout à fait extérieures à la sécurité civile, les émeutes urbaines de l'été 2023 par exemple, le mouvement de contestation agricole qui a eu lieu début 2024, etc. Et donc à chaque fois, il faut rendre opérationnelles les structures de commandement et de préparation et de conduite à la crise qui sont mises à disposition du gouvernement. Quelques réflexions sur sur le commandement en milieu civil et en période de crise. Ce que je vous dis là, encore, n'a aucune prétention universitaire. Je sais qu'il existe des tas de manuels, remarquables, forcément, hein, sur le leadership, le commandement, etc. Et peut-être que vous aurez à vous confronter à ces ouvrages de formation. Moi, je ne les ai pas lus, hein, donc je ne vais pas parler de ça. Je vais vous parler de ce que j'ai pu constater, observer, peut-être vivre un peu aussi dans l'enchaînement de mes fonctions successives. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef en période de crise ? En période de crise et hors période de crise, en réalité. C'est difficile de hiérarchiser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, mais je vais essayer quand même de partager quelques-unes avec vous. Le chef, sa première responsabilité, me semble-t-il, c'est de donner du sens à l'action du collectif. Savoir où on va, ça suppose d'y avoir réfléchi, et ça suppose ensuite d'être capable de l'expliquer à ses troupes. Dire où on va, donner du sens. Vous ne mobiliserez jamais vos équipes si vous n'êtes pas capable de leur faire comprendre et de les faire adhérer à la mission que vous leur donnez. Alors, il y a des missions qui sont très simples à formuler, et des missions du quotidien, puis il y a le grand dessin. On prend un commandement dans le monde militaire, j'imagine, mais dans le monde civil aussi. Moi, quand j'ai été nommé à la tête de la direction générale, je me suis donné quelques mois pour poser un certain nombre de constats, puis ensuite j'ai pris le temps de réfléchir un peu, puis de proposer au ministre de l'Intérieur un cap. Un mandat, et ensuite, il a fallu que j'aille l'expliquer. Le chef, c'est sa responsabilité première, mais c'est ça, c'est de donner du sens à l'action quotidienne de ses équipes, et donc de les faire adhérer à ce grand dessein. Deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous, le chef doit savoir décider, trancher. Il n'y a rien de pire que les responsables qui sont averses à la prise de décision et qui tergiversent, ou qui noient, qui diluent la prise de décision. C'est vrai, par temps calme, vous verrez, hein, quand vous serez investi de vos responsabilités de commandement, il y a la crise, où là, la prise de décision, l'intensité de la prise de décision explose. Vous avez 100 décisions à prendre par demi-heure. Mais par temps calme aussi, vous avez des décisions à prendre sur le fonctionnement de votre unité, des décisions structurelles, puis des décisions individuelles aussi, qui sont souvent les plus compliquées. Il faut savoir décider, il faut savoir trancher. Et ça veut dire qu'il faut savoir, il y a le cas échéant, prendre des décisions désagréables. En les expliquant, mais le pire est de ne pas décider. Ça renvoie à un deuxième sujet. La prise de décision, me semble-t-il, elle est par essence solitaire. C'est très vrai, je pense, en milieu militaire, mais ça l'est tout aussi en milieu civil. Notre administration, notre armée, évidemment, mais notre administration civile aussi, reste très formatée par les grands principes napoléoniens. Et on a une administration qui est organisée pas très différemment de la manière dont Napoléon l'avait conçue au début du XIXe siècle. Elle a gardé cette organisation très pyramidale, y compris donc dans l'administration civile, très hiérarchisée, qui ressemble assez furieusement d'ailleurs à l'organisation des légions romaines. Hein. C'était le modèle d'inspiration de Napoléon. Deux siècles plus tard, ça fonctionne à peu près toujours. Hein. Et donc celui qui est en haut de la pyramide, il doit assumer sa solitude pour prendre des décisions. La prise de décision ne se partage pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être précédée d'une consultation. Hein. Il est même assez souhaitable qu'elle le soit. Il ne faut pas non plus multiplier les consultations à l'extrême, hein, sinon ça devient très vite ingérable. Mais surtout s'agissant des décisions difficiles, le chef a le droit, je pense, le devoir de s'entourer de conseils, de ses subordonnés directs, ce qui suppose d'avoir établi avec une relation de confiance, mais in fine, c'est lui qui tranchera, c'est lui qui décidera. Et il le fera seul. La solitude du chef, alors ça fait un peu tarte à la crème, pardon, mais la solitude du chef, c'est une réalité. Et il faut l'assumer, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Sinon, on devient très vite angoissé ou malheureux. C'est la contrepartie des responsabilités. Vous y serez toujours inévitablement confronté. Il ne faut pas, une fois encore, le redouter. C'est inhérent à l'exercice des responsabilités. Alors, plus vous montez dans le niveau de responsabilité, plus cette solitude peut être pesante, parce que plus vous allez être amené à prendre des décisions lourdes, engageant, et ça c'est très vrai dans l'institution militaire, engageant le cas échéant la vie de vos hommes et de vos femmes. Enfin, c'est des décisions extrêmement. Mais il faut assumer cela, sinon, une fois encore, on ne fait pas son travail correctement. Alors. Il y a des manières de rendre cette solitude plus acceptable. Ça renvoie notamment à la capacité à créer un climat de confiance avec ce qui constitue la garde rapprochée. Ça, on le retrouve en milieu civil aussi. Hein. Moi, pour porter la sécurité civile, donc 250 000 sapeurs-pompiers, 600 militaires des formisques, 400 pilotes, 400 démineurs, etc. Bon, heureusement, je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe de direction. J'ai la chance d'avoir pu choisir une partie des membres de mon équipe de direction, ça c'est un vrai luxe. Et heureusement, je suis épaulé, soutenu par eux, mais au final, quand j'ai des décisions à prendre, c'est pour le chef. Le chef, il doit aussi, ça c'est très important, être garant de la cohésion de son équipe. Je dis souvent que la solidité d'une chaîne se mesure à la solidité de son maillon le plus faible. Il faut être très attentif à ça. En tant que chef, on a évidemment toujours envie de tirer son collectif, son unité, vers le haut, le plus haut possible. On a de l'ambition, mais c'est normal. Il faut toujours veiller à la cohésion de l'ensemble. Déjà, la cohésion de la garde rapprochée, ça c'est très important. Quand on exerce des responsabilités lourdes, et de plus en plus lourdes avec l'expérience, on n'a pas envie de perdre son temps à arbitrer des conflits de cours de récréation. Donc ça suppose de veiller à ce que la garde rapprochée, c'est-à-dire celles et ceux avec qui vous interagissez tous les jours, fonctionne correctement. Mais ça, la cohésion, ça vaut pour tout le monde. C'est une vertu cardinale, ce qui veut dire aussi que le chef est là aussi pour garantir, enfin, veiller à la cohésion de son unité ou de ses troupes, mais aussi pour les protéger. Ça, c'est très important. Dans des contextes de plus en plus tendus, voire hostiles, le chef il est là pour faire écran, pour protéger ses troupes de l'extérieur et prendre leur défense. C'est en grande partie ça qui détermine la cohésion et l'aptitude, la volonté des troupes de suivre leur chef. Si on ne se sent pas protégé par son chef, on hésitera toujours à sortir de la tranchée pour aller pour le suivre. Je voudrais maintenant venir sur autre chose qui me semble très important dans l'exercice des fonctions de commandement. C'est la nécessité absolue de garder du temps pour réfléchir. Il faut absolument se prémunir, se préserver de la tentation du micromanagement. On a tous, c'est très humain, hein, tendance à penser que si on ne fait pas les choses soi-même, elles sont faites, ou pas comme on le souhaite, Il faut à tout prix se préserver contre ça, il faut accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout faire, ça veut dire qu'il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, et ça, c'est ça qui permet précisément de se ménager du temps pour réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir au sens de ce qu'on fait. Quand il y a eu la crise de Chido, en décembre dernier, donc Chido, ce cyclone qui a ravagé l'île de Mayotte le 14 décembre 2024, qui a occasionné probablement la plus grande crise de sécurité civile que notre pays ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Très calmement, mais c'est la réalité. Moi, j'étais évidemment première loge, j'ai passé une bonne partie de mon temps en ces lieux de crise avec le ministre de l'Intérieur, le président de la République, la moitié du gouvernement, mais je veillais à garder du temps pour rester dans mon bureau, c'est-à-dire pas au milieu de la fournaise en bas dans la cellule de crise, au moins une à deux heures par jour pour réfléchir et essayer de préparer et de le faire au calme. Vous ne pouvez pas réfléchir au milieu d'une cellule de crise, ça c'est pas possible. Et vous ne faites pas bien votre boulot si vous êtes en tant que chef opérationnel de la conduite de crise, qui était mon cas, si vous êtes en permanence immergé dans le fourneau avec des décisions qui vous remontent du coup en permanence, des arbitrages à rendre, des sollicitations qui tombent de tous les côtés, vous ne faites pas bien votre boulot. Le chef doit prendre du temps pour réfléchir. Donner du sens, je le disais tout à l'heure, et réfléchir et préparer les coups d'après. Enfin, ça renvoie à un autre sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est la question de l'anticipation en conduite de crise. Donc vraiment, ça vaut de manière évidente et de manière, j'allais dire, vitale en temps de crise, mais ça vaut aussi par temps de crise. Prenez du temps pour réfléchir. Ménagez-vous des espaces de réflexion, des espaces où vous vous trouvez comme vous pouvez, ça peut être la réflexion tout seul dans votre cabine, dans votre bureau, ça peut être la lecture d'articles ou d'ouvrages qui vous permettront de nourrir un peu votre réflexion, mais prenez le temps de le faire. Une autre chose qui me semble importante, quand on exerce des responsabilités, a fortiori des responsabilités de commandement, c'est de ne pas se réfugier derrière une appréhension purement intellectuelle des choses, des sujets. Tout ne se résume pas à des notes ou à des tableurs Excel. Il faut prendre le temps d'aller sentir les choses et puis d'aller rencontrer les personnes. Alors pardon, ça fait peut-être un peu tard à la crème là aussi, mais on est parfois surpris, très surpris même, de voir à quel point la perception d'une réalité donnée peut être distordue par rapport à ce qu'est la réalité sur le terrain. Moi, je l'ai vécu très fortement à Mayotte, là, en décembre. Donc j'ai passé les premiers jours de la conduite de crise à Paris, au centre de crise avec tout le monde devant et l'arrière-ban. Et le sentiment qu'on avait d'avoir une ville de Mayotte non seulement totalement dévastée, mais en situation quasi insurrectionnelle. Et ce, alors même qu'on était en relation visio quotidienne avec le préfet et les équipes sur place. Donc c'est assez inquiétant en réalité. Au-delà de la dimension sécurité civile, la question qui est apparue très vite dans les discussions des autorités, c'est est-ce que l'État, la République, va pouvoir garder le contrôle de Mayotte à court terme. C'est pas évident hein, quand vous savez qu'il y a une population étrangère en situation irrégulière assez nombreuse sur cette île. Je suis allé sur place 10 jours après le passage du cyclone. Je suis allé passer 4 jours sur place et j'ai été très frappé par ce que j'y ai vu. La première chose qui m'a frappé, c'est le très grand calme qu'il y avait dans les Mayotte. J'avais déjà été à Mayotte à peu près un an avant, début 2024, au moment où il y avait une crise très forte autour de la distribution d'eau potable à la population, et plus d'eau potable. Hein. En 5 mois, les habitants de Mayotte n'ont plus eu accès à l'eau potable. Donc on avait mis en place une manœuvre logistique de distribution d'eau, et j'étais allé sur place à ce moment-là, et j'avais été frappé à l'inverse par la très très grande tension qui régnait, l'agressivité extrêmement forte. Hein. J'ai notamment accompagné une fois le ministre de l'Intérieur, qui était Gérald Darmanin à l'époque. Tous les déplacements qu'on avait faits sur l'île, il y avait un blindé à chaque croisement de rue pour éviter les émeutes. Enfin, quand j'y suis retourné en décembre, 10 jours après le passage du cyclone, ce qui est la première chose qui m'a frappé, alors évidemment, outre la dévastation de l'île qui était réelle, c'est le très grand calme qui est arrivé. Et je pense que ça a influencé, j'espère positivement, la manière dont on a ensuite géré cette conduite de crise. Et du reste, quand je suis allé sur place, je me suis faire un tour dans les fameux bangas, les bidonvilles sur les hauteurs de Mamoudzou. À Paris, on nous expliquait que c'était des mouroirs à ciel ouvert, que les gens n'avaient plus accès à la nourriture, qu'ils étaient, il y avait des blessés partout qu'on ne savait pas traiter, que les gens mouraient de faim, de soif, etc. Je suis allé me promener dans le plus grand manga au Shinonzu, expérience, je vous garantis, assez marquante, parce que quand vous voyez ça, vous devez vous pincer pour vous dire qu'on est en France. Hein, quand même, hein. C'est assez. Je n'ai absolument pas retrouvé cette vision, cette peinture catastrophiste de la réalité. Et j'ai du reste, quand j'ai terminé ce tour que j'ai fait, je ne sais pas, 2 heures peut-être, je me suis mis à l'écart, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur pour lui dire « Voilà, monsieur le ministre, voilà ce qu'est la réalité. Je viens de passer 2 heures à Mamoudzou. Tout le monde a accès à la nourriture, il n'y a pas de blessés, l'eau est distribuée, c'est important, ce que je veux dire par là, c'est important d'aller confronter son appréhension intellectuelle des sujets avec la réalité de terrain, dès lors qu'on est en mesure de le faire. Ça vaut pour la réalité de terrain, mais ça vaut aussi pour les interactions humaines. Le chef doit trouver le juste positionnement entre la distance et la proximité. Alors c'est pas facile, ça. Hein. C'est peut-être un des trucs les plus compliqués en réalité. Vous êtes jeune, une chance, profitez-en. Vous allez prendre des responsabilités dès la fin de votre scolarité. Vous allez vous retrouver, je pense, en situation de devoir encadrer l'équipe, mais vous serez toujours jeune. Vous allez avoir sous vos ordres des personnes qui seront beaucoup plus âgées et, pardon de vous le dire, beaucoup plus expérimenté que vous. Mais vous serez le chef. Il faut trouver un positionnement adapté. Le chef, il doit être accessible. Ça ne doit pas être, ça doit pas être une espèce d'entité abstraite qu'on ne voit jamais. Il doit être accessible pour beaucoup. Mais c'est pas non plus, il ne doit pas surjouer la proximité non plus. Il doit y avoir une forme de distance qui conditionne le respect. Et d'où découle l'autorité d'ailleurs, hein. Tout ça est assez lié. Le risque, notamment quand on prend des responsabilités en étant jeune, on a tous vécu ça. Moi aussi, mon premier poste de sous-préfet, j'avais 26 ans, je me suis retrouvé à devoir donner des ordres à un colonel de gendarmerie, un commissaire des DSP qui avait 30 ans de plus que moi et qui avait absolument tout à m'apprendre de leur métier. Bon, le risque, c'est, quand on est dans cette situation-là, de vouloir surjouer la proximité. Il faut faire attention à ça, parce que le chef, c'est pas un chef de meute. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne doit pas se retrouver dans le positionnement d'être le primus inter pares. Non, il doit garder une certaine distance, sinon il ne sera pas respecté comme chef. C'est mécanique. Et puis, rassurez-vous, l'âge et les années se chargeront assez naturellement de remédier à cette situation à laquelle vous allez être confronté au début de votre carrière. Voilà. Une chose importante aussi à avoir toujours en tête, là on a parlé de l'exercice de l'autorité, l'exercice du commandement dans une logique assez descendante. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'on est toujours le N-1 de quelqu'un. Alors, sauf quand on est le président de la République, où là, a priori, on est chef des armées, chef de l'administration, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de personne ici. Donc on est toujours le N-1 de quelqu'un. Donc être chef, c'est naturellement commander, c'est naturellement d'abord réfléchir à la manière dont on veut exercer son commandement vis-à-vis de celles et ceux qui sont placés sous notre autorité. Mais c'est aussi réfléchir à la manière dont on se positionne vis-à-vis de celui et ceux qui sont au-dessus de vous. Ça renvoie à des qualités qu'on doit avoir, et notamment une des plus. Il y a des choses qui sont évidentes, et je n'ai même pas la peine de les mentionner, la loyauté, la rigueur, l'exigence, la précision, etc. Tout ça. Il ne faut pas non plus oublier que quand on est un chef qui doit rendre des comptes, il faut aussi savoir, il faut savoir dire non. Ça, c'est pas le plus évident, ça. Mais on a toujours envie de bien faire. Quand on nous donne une mission, on a toujours envie de dire oui, je prends la mission, pas de problème, je prends, etc. Pensez toujours à vos troupes et à la capacité qu'elles auront à suivre. Et ça veut dire que le cas échéant, il faut être capable, mais en l'expliquant, en le justifiant, de dire pardon, mais là, je ne suis pas certain d'être en mesure de prendre cette mission dans de bonnes conditions. Ça vous arrivera forcément, ça. Si vous êtes confronté à cette situation, une fois encore, je pense que vous le serez toutes et tous un jour ou l'autre, il ne faut pas du tout vivre ça comme une défaillance. Au contraire, si on prend une mission sans être en mesure de la prendre en bonnes conditions, c'est là qu'on se met en risque. Et c'est souvent là, malheureusement, que les drames arrivent. Donc il faut avoir le courage d'expliquer que là, pour telle et telle raison, on ne saura pas faire. On ne saura pas faire dans de bonnes conditions. Ensuite, ça renvoie à la capacité de votre N+1 à entendre ce que vous lui dites. Mais il est important d'avoir cette... La loyauté, c'est aussi ça. Oui, c'est obéir aux ordres, évidemment. Mais c'est aussi capable d'éclairer le chef sur les limites de l'organisation qui est sous ses ordres. N'oubliez pas ça, parce que c'est pas le plus simple. En période de crise, alors, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, évidemment, est valable et se vérifie de manière assez exacerbée, mais il y a deux ou trois autres choses qui me semblent importantes. La première, j'enfonce une porte ouverte, c'est très important, garder son calme. En période de crise, le chef doit être absorbeur de stress et diffuseur de sérénité. C'est essentiel, c'est vital, sinon on explose en vol. Croyez-moi, je vous parle d'expérience. La vertu première du chef en période de crise, c'est sa capacité à garder son calme. Et ça se répercute sur l'ensemble de la structure chargée de conduire la crise. J'ai été très frappé par... comme vous l'avez compris, avant d'occuper aujourd'hui une fonction de directeur général, j'étais directeur général adjoint pendant 2 ans, de 2015 à 2017, à DGSCGC. Et j'ai été notamment au moment des attentats de novembre 2015, sur le Bataclan. J'ai vécu cette soirée du 13 novembre au centre de crise. Alors, ce n'est pas une crise à dominante sécurité civile, mais c'était une crise à l'évidence. Une crise profondément traumatisante pour notre nation. Plusieurs choses m'ont frappé ce soir-là, notamment le très grand calme je le dis très simplement et sans aucune, enfin voilà, de très grand calme, le président de la République. Vous imaginez la scène, vendredi soir, j'étais en train de dîner chez des cousins à Paris, je reçois des messages, je me suis derrière, je vois fusillade des boutiques dans Paris, je ne comprends pas ce que j'ai vu un truc avant, l'explosion au Stade de France, mais tout ça restait très. Je vois un message au directeur général en me disant que je suis à Paris, si tu as besoin que je rentre, il me dit rapide immédiatement. Donc là, je ne me pose pas de questions, je saute dans ma voiture, je trace jusqu'à la place Beauvau, je descends directement en CIC, sans trop savoir ce qui se passait dans Paris, parce que là, il était Bataclan, on n'avait pas eu lieu encore, hein, il était 9h, 9h15. Et j'arrive là, j'ouvre la porte et je tombe derrière avec le président de la République. C'est un peu bizarre. Et là, je comprends en fait ce qui se passe. J'ai été frappé par le très grand calme du président de la République. Là, c'était le chef de l'État. Le commandant en chef, c'était lui ce soir-là. Et le calme du président de la République se diffusait à l'ensemble des personnes présentes dans la salle. Vous aviez le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, le garde des Sceaux, tous les ministres directement concernés, plus tous les grands chefs évidemment, police, gendarmerie, contre-terroriste, sécurité civile, enfin, on était tous là, et j'ai été frappé par ça, le fait que le calme du président de la République se diffusait à l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Un peu plus tôt dans la soirée, alors là je n'y étais pas, mais on m'a rapporté cette scène plusieurs fois. Un peu plus tôt dans la soirée, le président de la République était au Stade de France. Vous savez que ce soir-là, il y avait un match de foot France-Allemagne, et que c'était un match de gala, je crois, enfin, qui avait été donné notamment auquel on avait assisté, on avait invité toutes les équipes qui avaient été concernées dans la gestion du crash de la Germanwings. Qui a eu lieu quelques mois plus tôt. Donc le président de la République était au Stade de France avec son homologue allemand, et c'est à ce moment-là qu'ont eu lieu les explosions, les premières explosions à l'extérieur du Stade de France. Hein, parce que vous savez que le projet initial de l'été terroriste, c'est public, donc on peut le dire, le projet initial des terroristes n'était pas de faire, c'était pas ce qui s'est passé. Les attentats des terrasses et du Bataclan devaient faire office de diversion. Et le projet initial, c'était de faire un attentat, un carnage de grande échelle dans le Stade de France. En ayant détourné au préalable les forces d'intervention dans le centre de Paris pour. Voilà. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que ceux qui devaient agir au Stade de France n'ont même pas été en mesure d'y rentrer. Donc le terroriste s'est fait exploser à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le président de la République est prévenu de ce qui se passe. Quitte la tribune pour aller au PC de crise du Stade de France, où il retrouve le préfet de police, le préfet de Seine-Saint-Denis, et puis tous les responsables qui étaient là. Et la décision qui a été à prendre à ce moment-là, c'était est-ce qu'il faut interrompre le match ou pas. Alors vous aviez 80 000 personnes dans le Stade de France. Vous saviez des explosions. Une explosion avait eu lieu aux abords du stade juste avant. On vous annonce que des fusillades ont lieu dans Paris et on vous demande, Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interrompt le match ou est-ce qu'on le continue? Et la réponse du Président de la République a été assez remarquable. Il a dit, faites ce que vous dit le préfet. Faites ce que vous dit le préfet. Qui était là, le préfet de Seine-Saint-Denis, à côté de lui. Et je trouve cette réaction assez remarquable parce que, d'abord, il a dit très calmement, et puis surtout, il a eu le bon réflexe consistant à ne pas vouloir prendre une décision sur la base d'éléments dont il ne disposait pas. Tout comme le président de la République actuel, au moment de l'incendie de Notre-Dame, a laissé. Général, comment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris prend les principales décisions. Alors, le général rendait compte, évidemment, parce que le président de la République était présent sur place, mais il s'en est remis aux propositions du général comment la brigade. Donc, garder son calme, anticiper au maximum. Alors ça renvoie à ce que je disais sur la réflexion, anticiper au maximum. Une gestion de crise se joue beaucoup à la capacité à penser le coup d'après. Et penser le coup d'après, c'est plus facile si on y a réfléchi avant. Et donc ça, c'est la gestion de crise ne commence pas lorsque la crise arrive. La gestion de crise, elle se prépare. Elle fait l'objet de travaux de planification, elle fait l'objet d'exercices. La planification, ce n'est pas uniquement la planification stratégique, hein, c'est la planification stratégique est très importante, mais elle ne suffit pas. Elle n'est valable que si elle est complétée par une planification opérationnelle. Ce que dans notre jargon, on appelle des what if. Qu'est-ce qu'on fait si ? Regardez ce qui s'est passé en Espagne avant-hier. Blackout total. Ah, bel exemple. Là, si ça arrive en France demain, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prépare? Vers quoi on fait porter nos efforts? Ça, si vous n'y avez pas réfléchi avant, le jour et que vous commencez à y réfléchir le jour où le réseau électrique tombe, je pense que nous ne serions pas très performants. En tout cas, on perdrait beaucoup de temps. Je vous rassure tout de suite, on y a déjà un peu réfléchi et on va actualiser notre réflexion à la lumière, si je puis dire, de ce qui s'est passé en Espagne il y a deux jours. C'est-à-dire que lorsque la crise arrive, il faut être prêt. Voilà. C'est vraiment essentiel. Et être prêt, on l'est si on s'est préparé, si on a fait des exercices, si on a... si on a notamment aussi accordé toute sa place à la culture du retour d'expérience. Moi, je peux vous dire que quand j'ai géré Chido là, au mois de décembre, il se trouve que quand j'étais numéro 2 de la DG, j'ai eu la connaître de l'ouragan Irma à Saint-Martin en septembre 2017. Ben, j'étais très content d'avoir fait faire à l'époque un rétex assez trapu sur Irma parce que je me suis beaucoup basé dessus pour prendre les premières décisions sur Chido. Chido, quand la crise est arrivée, un ouragan, un cyclone, vous avez en général 3 à 4 jours de préavis. C'est-à-dire que vous voyez un phénomène cyclonique se constituer, mais jusqu'à 3 à 4 jours avant l'événement, vous ne savez pas avec précision ce que sera sa trajectoire, donc vous ne savez pas s'il va aller percuter tel territoire. Donc ça vous laisse assez peu de temps en réalité pour vous retourner. Une des premières choses que j'ai décidé, c'est d'armer une cellule anticipation. D'armer une cellule anticipation pour préparer les coups suivants. Et ça a été absolument déterminant. Dernière chose, et puis après, je ne sais pas s'il nous reste du temps, j'espère, pour les échanges. Quand on gère une crise, il faut hiérarchiser. Assumer ses pertes. Quand j'ai ses pertes, c'est assumer, pas ses pertes humaines heureusement, mais assumer le fait qu'on ne pourra pas tout traiter, on ne pourra pas répondre à tout. Et donc ça suppose d'avoir une vision très claire de la hiérarchie des priorités. Quels sont les sujets sur lesquels je ne peux pas me rater? Quels sont les sujets sur lesquels j'ai une attente maximale de mes autorités? C'est là-dessus qu'il faut concentrer ses efforts. Et pardon si je vous dis les choses un peu brutalement, tant pis pour le reste. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en période de crise. Qu'on ne peut pas faire suffisamment bien. Et ça, il faut l'assumer. C'est ce que dans le jargon des pompiers, on appelle la part du feu. Alors, on ne peut pas tout sauver, on ne peut pas tout traiter, il faut se concentrer. Chido à Mayotte, on a assumé, par exemple, de mettre le paquet dans les premières heures et les premiers jours après le passage du cyclone sur le rétablissement du courant, le dégagement des axes routiers et la mise en place d'un pont aérien et maritime depuis la métropole jusqu'à Mayotte via la Réunion. Parce que ça conditionnait tout le reste. Si on avait dispersé nos forces sur le secours à personne, sur le rétablissement de la vie économique, etc., on n'aurait pas été en mesure d'être aussi réactif sur les choses qui étaient essentielles. Le cyclone Chido est passé sur l'île de Mayotte le samedi 14 décembre matin. Le premier vol a atterri à Mayotte, la région, le dimanche en fin de journée. Et à partir de là, on a mis en place des rotations continues, grâce, et je le dis devant vous, grâce au concours déterminant de nos camarades du ministère des Armées qui ont mis à notre disposition des moyens aériens tout à fait considérables. Mais ça, c'était le fruit d'une anticipation. On n'a pas commencé à y réfléchir le 14 au matin.